J'adore ça. Moi, je sors tout le temps.
Mais putain, sortez chez vous,
je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, touchez ferme, sortez.
Oui, alors, oui. Franchement, c'est trop chouette. C'est vraiment trop intéressant.
Allez-y, quoi.
Sortez,
vous voulez sortir?
Au chien bleu, chez
sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Vous sortiez tous avec nous.
Sors!
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis Samuel et je suis accompagné de mon acolyte de tous les jours, Marie. Bonjour Marie.
Salut Samuel.
Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mylène Tulifer et Baptiste Hamon du Temps Machine, qui sont respectueusement service civique et chargés de l'action culturelle et de la programmation jeune public. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour parler CERCI, puisque le Temps Machine s'associe au Musée des Beaux-Arts et à l'Université de Tours pour ce projet, dont la restitution aura lieu durant la soirée du jeudi 5 décembre de 19h à 23h, sous le nom de Happy Music Hour au Musée des Beaux-Arts.
Exactement, donc le CERCIP, c'est l'acronyme de compétences, engagement, réflexion citoyenne et pratique. C'est obligatoire pour les étudiants en deuxième et troisième année de licence sur un des deux semestres de l'année pour valider le diplôme. Donc c'est un dispositif qui permet aux étudiants de pratiquer des activités physiques et sportives, culturelles, artistiques et associatives. Et il y a aussi quelques CERCIP qui concernent donc également l'insertion professionnelle, la santé étudiante et la transition écologique. Ce dispositif permet aux étudiants d'obtenir deux ECTS, donc deux crédits, pour valider le diplôme. Et il y a quelques formations qui sont donc acceptées du CERCIP. C'est valable notamment pour les doubles licences.
Et donc ce projet, on l'a dit, associe l'université, le Musée des Beaux-Arts et le Temps Machine autour de création sonore. Concrètement, en quoi est-ce que consiste ce CERCIP ?
Du coup, le CERCIP qu'on fait avec le Musée des Beaux-Arts et le Temps Machine, il consiste à ce que des étudiants viennent, choisissent des œuvres parmi les collections du Musée des Beaux-Arts, fassent une médiation dessus, donc expliquent, décrivent le tableau, posent un contexte, disent ce qu'ils ont envie de dire sur l'œuvre, et de par-dessus, créer un paysage sonore avec l'application Audioroom, l'appli, qu'on utilise autant machine pour proposer une autre vision de l'œuvre autour du son et selon leurs inspirations. Et donc restituer tout ça lors d'une soirée proposée au public.
Qui est-ce qui encadre ce projet ?
Alors, il y a du coup Baptiste qui est avec moi, et on est accompagné par deux autres personnes, Virginie Danseau, qui est la responsable des publics du Musée des Beaux-Arts, donc un peu l'équivalent du poste de Baptiste, mais au Musée des Beaux-Arts, action culturelle, tout ça. Et Mathieu Nantois, qui est un musicien, compositeur de local, qui nous accompagne sur le CERCIP déjà depuis quelques années.
Depuis 4 ans maintenant.
Ouais, voilà. Et qui maîtrise très bien l'application Audioroom, donc c'est pour ça qu'il est dans notre équipe. Et voilà.
Et quelle définition vous donneriez à la médiation sonore ?
Très bonne question.
C'est une bonne question. Alors la médiation en elle-même, je dirais que c'est créer un rapport entre un public et une œuvre. Donc là, on ne fait pas vraiment de la médiation sonore. En fait, l'idée, c'est vraiment de que les étudiants puissent proposer une médiation autour de l'œuvre, donc de la peinture ou de la sculpture qu'ils ou elles auront choisi au sein du Musée des Beaux-Arts. Et donc, comme le disait Mylène, ça comprend une analyse plastique, une analyse graphique, parler de l'artiste qui a composé, peint, sculpté l'œuvre, donner un petit peu son ressenti par rapport à l'œuvre et tout ça. Et puis, au-delà de ça, on leur propose via Audioroom l'appli de faire une création sonore, donc qui n'est pas forcément musicale en elle-même comme on peut l'entendre, en tout cas pas forcément rythmique avec des temps, avec des choses comme ça, mais plutôt utiliser des bruits, utiliser des sons du quotidien qu'on va chercher, qu'on va aller modifier, sur lesquels on va rajouter des effets, des choses comme ça, pour créer un objet sonore qui servira d'ambiance quelque part ou de description sonore du tableau, de l'œuvre de l'étudiant ou de l'étudiante. C'est une sorte de mise en abîme et de mise en contexte sonore d'une œuvre qui peut potentiellement dater du 14, 15e, 16e siècle.
Mmh. Oui, c'est ça, c'est une question qu'on se posait. Est-ce que dans les productions des étudiants, il y a quand même une recherche mélodique ou c'est plutôt des créations originales qui abordent différentes sonorités ?
Pour le coup, c'est vraiment des créations originales et comme dit Baptiste, c'est beaucoup plus de l'aspect du son que de la mélodie ou même de la musique en vérité. C'est eux-mêmes qui vont chercher les sons qui les intéressent et monter toute une ambiance. Donc ça, c'est eux qui le font de A à Z parce que c'est l'application qui le permet, enregistrer, monter, exporter, importer aussi.
Et puis en fait, on est vraiment sur de la musique qu'on qualifie de musique électroacoustique. Donc c'est pas forcément une musicalité. Alors c'est pas la musique qui vient de passer sur Radio Campus, c'est pas la prochaine qu'on écoutera ici. C'est vraiment cette idée d'aller travailler sur des sonorités, sur des bruits. C'est presque la musique bruitiste en fait quelque part. Et c'est vraiment cette idée, cet aspect d'aller chercher du son, d'aller l'enregistrer, le prendre, le distordre, le tordre, le détendre, le modifier, aller chercher des sonorités qui sont peu communes ou même quand on va les faire écouter à l'oreille dans des enceintes, on va se dire mais il sort d'où ce son ? Comment est-ce qu'il a pu être créé ? Comment est-ce qu'il a pu être enregistré ? Il y a vraiment cette idée-là de recherche sonore dans ce qu'on propose aux étudiants de faire et en tout cas là où on a envie nous de les emmener.
Et d'ailleurs, je rajouterais que les paysages sonores qui sont créés par les étudiants, ils sont presque indissociables des œuvres qui sont choisies. C'est un peu une œuvre complète qui sur lesquelles ils travaillent pendant toutes ces semaines-là et ça sort de leur tête, ça sort de leur esprit créatif.
C'est ça.
Ouais. Et la restitution, elle est carrément dans cet objectif-là, quoi.
Et puis ça permet d'amener des sonorités, voire même des détails. Parce que, alors, il y a petite information intéressante, c'est que quand on visite un musée, de manière générale, il y a des études qui sont faites par rapport au public qui disent que, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais une personne devant une œuvre reste en moyenne entre 3 et 8 secondes devant une œuvre. Donc c'est peu. L'avantage avec ce CERCIP-là, c'est que ça permet au public de se dire, il y a une médiation, donc déjà on reste plusieurs minutes, 4, 5, 6, 7 minutes suivant les présentations des œuvres, et en plus de ça, on va écouter une œuvre devant un tableau, donc l'œuvre qui va être écoutée, le paysage sonore, la création sonore, dure en moyenne 1 minute 30. Donc pendant 1 minute 30, on invite le public à venir regarder une œuvre et vraiment ne faire que la regarder pendant 1 minute 30 avec quelque chose de sonore, une œuvre sonore en plus. Ça permet de se poser, de poser le regard sur le tableau et au-delà de ça, de venir appuyer et mettre en avant certains détails du tableau qu'on ne verrait pas forcément si on n'y prêtait pas forcément attention. Je prends l'exemple d'un tableau là, d'une étudiante, de cette année en tout cas. Sur l'un des tableaux, il y a un âne qui est un tout petit dans le fin fond du tableau. Il a vraiment un sens. Donc quand on le sait, il y a vraiment un sens pourquoi cette année-là. Par contre, si on le regarde rapidement, là, on le voit pas du tout. Dans le paysage sonore, l'étudiante a choisi de le mettre en avant et de faire un gros cri d'âne. Et elle l'explique aussi et le justifie, évidemment.
Ouais, vendu comme ça aurait été décevant du coup qu'il n'y ait pas un gros cri d'âne.
Bien sûr.
Donc les objectifs, on l'a dit, c'est de réaliser un paysage sonore à l'aide de l'appli Audio Room. C'est une application qui a été développée par et pour Le Temps Machine en association avec Unendlich Studio et Supersonic. C'est quoi le projet autour de cette application et quelles sont ses fonctionnalités ?
Donc c'est un projet comme tu l'as dit Marie qui a été porté par Unendlich Studio. Donc derrière Unendlich il y a deux artistes, Eddie Ladoire et Hélène Perret, avec qui on a travaillé sur le développement de cette application là. L'idée c'était vraiment de rendre accessible l'enregistrement, le montage, le mixage de son, peu importe les publics avec lesquels on allait pouvoir travailler. C'est-à-dire que cette application, elle est extrêmement simplifiée. C'est une sorte donc c'est sur tablette. Il y a quelques pistes, on peut juste enregistrer du son. Il y a un petit bandeau qui va du vert au rouge. Si c'est dans le rouge, évidemment, c'est trop fort ou on est trop près de la source sonore. Donc ça peut permettre d'amener des informations auprès de certains publics et de sensibiliser sur ce que c'est que le son, ce que c'est que l'enregistrement, ce que c'est que le montage, ce que sont les effets qu'on peut mettre sur le son aussi, mais vraiment sur des choses très minimes et très simples et basiques, mais vraiment dans cette idée d'apporter de la sensibilisation, une première approche vers quelque chose qui derrière peut être encore plus poussé sur des logiciels, sur ordinateurs et compagnie qui sont encore plus développés, mais c'est pas l'intérêt sur cette application-là. Vraiment l'idée, c'est de proposer de la sensibilisation. On monte des projets avec cette application-là, avec des enfants qui ont 7 ans, comme avec des personnes âgés qui sont dans des résidences autonomie et qui en ont 97. Donc il y a vraiment cet aspect-là d'initier les non-initiés à cette pratique de l'enregistrement et du montage, quelque part. Et de la création sonore aussi, puisque ça revient un petit peu sur ce qu'on disait juste avant, c'est qu'on va aller chercher à créer des œuvres sonores qui ne sont pas nécessairement musicales. Et donc, on peut vraiment travailler avec des débutants et des débutantes totales et leur apprendre de ce que c'est que de faire du son, de faire de la musique électroacoustique. Je ne sais pas si Hélène, tu voulais rajouter peut-être aussi.
Et avant du coup que vous passiez du coup à l'antenne, je pensais à une chose. Est-ce que ça s'apparente pas un peu comme au cinéma ou à du sound design? On a une image qui pas obligatoirement est figée, mais on y rajoute du coup des bruitages derrière. On essaie d'imaginer du coup la scène, ce qui se passe à l'intérieur de cette image et de créer quelque chose chez la personne qui est en train d'observer, une émotion ou quelque chose de différent.
D'un certain point de vue, oui, carrément, on peut carrément rapprocher ça du sound design et même plus globalement du cinéma quelque part, puisque là, par exemple, pour les créations sonores, on demande aux étudiants et aux étudiantes de travailler sous forme de scénario à la base, donc créer un scénario sonore où on va imaginer quel son on va apposer en face d'une idée pour faire ressortir son idée. Donc, y a vraiment, on peut faire complètement un parallèle sur ce projet-là, en tout cas avec le cinéma, la création graphique.
Mmh. Oui, l'objectif, c'est carrément de rendre une image fixe plus vivante, en fait. Et comme l'exemple de l'âne, c'est un très bon exemple, c'est faire du son à des images, quoi. Et du coup, tu as des petits éléments comme ça qui vont faire du bruit. Et des fois, c'est des choses que tu vois pas, qui sont complètement liées à l'imaginaire des étudiants qui créaient le paysage. Mais du coup, il y a encore plus ce truc immersif d'imaginer quelque chose qu'on ne voit pas, qui peut être autour de nous ou ailleurs, avant, après. Enfin, c'est vraiment très, très immersif et très vivant comme expérience et comme façon de voir une œuvre, en tout cas.
Et que pourra-t-on retrouver lors de cette soirée Happy Music Hour au MBA ?
Alors, il y a donc à partir de 19h déjà, il y a l'ouverture donc de la soirée avec un petit mot de tous les étudiants qui participeront à la soirée. Donc il y a évidemment les étudiants, les 6 étudiants en CERCIP qui diront leur petit mot. Mais on accueille aussi 4 autres étudiants. Donc il y a 2 stagiaires du Musée des Beaux-Arts en master 2 d'histoire de l'art et 2 étudiants employés du Musée des Beaux-Arts qui proposeront des médiations flash pendant cette soirée-là aussi. Des médiations flash, c'est un petit peu comme ce que vont faire les étudiants en CERCIP, donc présenter une œuvre, poser un contexte, parler du peintre qui l'a produit, tout ça, mais sans cet aspect de paysage sonore qui l'entoure. Donc toutes ces personnes-là vont accueillir, on va dire, la soirée. Et après, ce sera une déambulation, une visite tout au long de la soirée pour présenter toutes ces médiations-là. En fin de soirée, on proposera un cocktail vers 20h30, vers ces horaires-là, pour fêter un petit peu le début de la fin, si j'ose dire. Et ce sera vraiment conclu par le concert de Luciole, du coup, un groupe de la scène locale. Qui se représentera au Musée des Beaux-Arts et pour clôturer cette belle soirée.
Je reviens un petit peu en arrière, pardon, dans les fondements. Ouais. Comment elle est née cette collaboration entre les 3 organismes ?
Eh ben, c'est une bonne question. En fait, il y a eu... Alors, déjà, il faut dire que cette collaboration, elle date d'il y a 6 ans. Moi, je suis arrivé il y a 5. Donc, ni Mylène ni moi n'étions à l'origine de la création de ce projet.
Ça fait
6 ans que le CERCIP existe. Et donc, l'origine, ça a vraiment tourné autour de l'application Audioroom, autour de la création de cette application. C'est-à-dire qu'on a été approché, Le Temps Machine, en tout cas, a été approché par Unendly Studio, par Eddie et Hélène, sur le développement de l'application et sur être un peu une structure test de cette application. Et savoir comment on allait pouvoir l'utiliser auprès de différents publics. Il a été du coup imaginé un projet avec le Musée des Beaux-Arts pour à peu près toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure, mettre en mouvement une œuvre pour que le public puisse se poser devant une œuvre, etc. Et donc ce projet est un peu né comme ça, à la fois d'envie de travailler ensemble avec le Musée des Beaux-Arts et de se rapprocher entre Temps Machine et Musée des Beaux-Arts, à la fois l'envie de créer quelque chose avec l'application Audioroom et de mélanger un petit peu tout ça. L'université du coup est venue assez rapidement dans la boucle aussi, puisque ça nous a paru assez intéressant de travailler sur le CERCIP et que c'était une bonne approche pour les étudiants, les étudiantes, et puis que ça permettait de compléter aussi l'offre de CERCIP déjà existante, puisqu'il y en a plein d'autres que celui que nous on propose. Donc ça permettait d'avoir aussi un petit quelque chose d'autre à proposer aux étudiants et aux étudiantes.
Merci à vous pour cette présentation. On y revient juste après une pause musicale donc sur le 99.5 FM. Je vous propose donc d'écouter le fameux groupe Luciole, groupe local qui sera présent au Musée des Beaux-Arts le 5 décembre donc pour un concert aux allures de pop onirique. On écoute tout de suite le titre « Amour calcaire ».
Véritable calvaire, ce vieil ami dont on ne peut se défaire. Mais l'âme fabriquée du calcaire, les gens de ma salle ont à refaire. Il est clair que j'ai le mal de mer. À qui la faute de cet amour calcaire? J'ai coulé au fond de ma baignoire, forcé de constater quel malheur de vous. Sur mon nez, il s'accroche. J'étouffe de nouveau ses proches. Le flic-flac ne cesse de couler. Les vieilles débordent depuis des années. Le carrelage est humide et glissant. Une masse est formée aussi bien grand. À mes pieds nus, voilà l'océan. Et même les poissons nagent dedans.
D'écouter Amour calcaire de Luciole sur Radio Campus Tours. Donc je rappelle que Mylène Tulifer et Baptiste Hamon du Temps Machine sont avec nous. Donc Luciole, c'est un groupe dont les textes s'immiscent dans les pensées de Lucie, l'autrice et chanteuse du groupe, qui est décrit comme un voyage intérieur avec une musique colorée et décalée. Est-ce que c'est le Temps Machine qui s'est chargé de programmer ce groupe ?
Eh bien, pas du tout. Sur les soirées CERCIP, enfin, en tout cas les soirées de restitution au CERCIP, c'est le Musée des Beaux-Arts qui propose une programmation au Musée des Beaux-Arts, puisque le Musée des Beaux-Arts a aussi une programmation de spectacles, que ce soit musicaux, en danse, etc., et accueille des spectacles assez régulièrement. Donc on leur fait entière confiance. Alors, ça arrive qu'on fasse ça conjointement, mais cette année, c'est le Musée des Beaux-Arts qui a choisi la programmation.
Et est-ce que vous savez comment s'est fait ce choix ?
Bah, c'est un moment d'écoute, hein, c'est une programmation classique. Il y a plusieurs choses. C'est à la fois l'idée de mettre en avant une programmation locale, ça c'est évident. Donc chaque année, on choisit un groupe du territoire. Et puis, il y a aussi l'envie de proposer un groupe qui termine une soirée qui est quand même étudiante à la base, l'Happy Music Award, donc quelque chose qui soit plutôt sympa, quelque chose qui soit pas non plus forcément, j'allais dire, dépressif, mais dans le bon sens du terme, hein, sans vouloir caricaturer. Donc voilà, plutôt un groupe un peu sympa, un peu pop, un truc qui passe bien et qui peut aussi passer, puisque donc le concert se déroule dans la galerie de Diane, donc l'une des plus grandes salles dans le musée des Beaux-Arts. Faut que le groupe puisse passer aussi et que techniquement ça puisse passer aussi dans le musée des Beaux-Arts, qui reste quand même une des contraintes principales.
Et du coup, la cible est uniquement les étudiants pour cet événement ?
Mais non.
Non, en fait, tout le monde est amené à venir à assister à la restitution. Alors évidemment, il y a les étudiants avec leurs amis, leurs familles. On va dire que c'est la première cible parce que ça paraît être la plus logique. Mais non, en fait, c'est ouvert à tout le monde dans une jauge limitée quand même, parce que le musée des Beaux-Arts n'est pas infini. Mais donc, il y a une jauge limitée, il n'y a pas de réservation de billets, donc il faut arriver sur place à temps, on va dire. Et les gens viennent avec différents tarifs. C'est ça qui est appréciable aussi avec ce genre de lieu, dont celui du Musée des Beaux-Arts. C'est que déjà, il y a un tarif, de gratuité pour une bonne partie des publics, et notamment du coup pour les étudiants de moins de 26 ans. Donc là, c'est sûr que ça cible encore un peu plus, mais c'est loin de là fermé à tout le reste du public, en sachant que le tarif le plus élevé pour cette soirée-là, c'est 8,40 €. Donc ça reste très accessible quoi.
Oui, c'est ça, c'est les tarifs d'entrée du musée des Beaux-Arts.
Ouais, c'est ça.
Et donc c'est gratuit pour les moins de 26 ans et les détenteurs du PCE aussi.
C'est ça, ouais.
Ouais. On l'a dit, peut-être pas. C'est aussi l'occasion pour les étudiants qui choisissent ce CERCIP de découvrir le temps machine. Sauf erreur de ma part, donc ils peuvent aussi visiter les locaux.
Complètement.
Et assister à un concert. Et cette année, de quel concert est-ce qu'il s'agit ?
Alors, il n'y a pas forcément de concert. On l'a fait l'année dernière exceptionnellement. On ne le fait pas forcément chaque année. Ça dépend un peu des possibilités, des propositions. Donc, on compte plus ou moins assister à un concert, comme le concert de restitution à la fin, donc là, qui aura lieu le 5 décembre. Il y a un concert sur place. Les étudiants et étudiantes qui participent au CERCIP peuvent évidemment, même on les invite très fortement, à rester assister au concert, c'est un peu leur soirée. Donc c'est ce concert-là qu'on considère en tout cas comme étant le fait de pouvoir assister à un concert. Donc c'est pas concert au temps machine, mais plutôt concert au musée des Beaux-Arts. Après, selon les séances, puisque du coup donc tout au long de l'année, il y a 18 heures de cours d'intervention pour ce CERCIP-là auprès des étudiants et étudiantes. Certains de ces ateliers-là se font au temps machine, donc il n'est pas rare que des jeudis après-midi, donc c'est le créneau des CERCIP, sur les jeudis après-midi, on ait des groupes qui sont en résidence dans l'une ou l'autre des salles du temps machine, et donc qu'on propose aux étudiants et étudiantes de passer voir ce qui se passe un peu dans la résidence, d'assister à une sortie de résidence, s'il peut y en avoir une, mais disons qu'on marche plutôt sur l'opportunité, si ça se présente, on le fait. On ne le met pas nécessairement en place, puisqu'on a déjà quand même pas mal de choses à faire avec les étudiants et les étudiantes, et que le temps passe extrêmement vite. Mmh. Donc on se concentre plutôt sur ce qu'on a à faire, et si jamais ça avance bien et qu'on se laisse un petit peu le temps, on en profite de ce côté-là.
Quelle est la plus-value pour le temps machine, donc une scène de musique actuelle, de contribuer à un CERCIP, et est-ce que ça fait partie d'un cahier des charges ? Est-ce que c'est une obligation ?
Aucune obligation. Nous, on le fait par envie déjà, parce qu'on a envie de travailler avec des acteurs comme l'Université de Tours, comme avec le Musée des Beaux-Arts, que ça nous permet du coup de travailler conjointement à ça. On a une obligation, je dirais, dans nos missions qui sont celles de faire des actions culturelles, donc d'aller à la rencontre des publics et de travailler avec des publics aussi divers soient-ils, et peu importe où ils se trouvent. Donc, travailler avec des étudiants, nous, ça nous paraît aussi intéressant, des étudiants et des étudiantes, ça nous paraît très intéressant. Je parlais de plus-value, je n'irais pas forcément jusque-là, mais en tout cas, c'est toujours bien aussi de pouvoir se montrer auprès des étudiants et étudiantes, leur dire qu'on existe, qu'on fait, qu'ils soient et qu'elles soient prescripteurs aussi de ce qu'on peut faire au temps machine. Et au-delà du projet, pouvoir revenir au temps machine, revenir au musée des Beaux-Arts et y avoir accès, et qu'on leur montre aussi qu'ils y ont accès et que les portes sont grandes ouvertes, mais à eux comme à n'importe qui finalement.
Et donc, Mylène, tu es en mission service civique. Quel a été ton rôle dans l'organisation de cet événement ?
du CERCIP. Moi, je suis arrivée, donc, comme on disait, c'est un CERCIP qui existe déjà depuis un bon paquet d'années. Et j'ai eu la chance d'arriver pile au bon moment, donc pile avant le premier atelier. Donc j'ai pu directement me greffer au projet, j'ai pu rencontrer les étudiants en même temps que tout le monde, j'ai pu prendre connaissance de tout ça. Et moi, mon rôle après, bah, ça va être... d'animer ou de conseiller les étudiants sur les travaux qu'ils produisent, de proposer des activités si jamais ça semble cohérent. Comme disait Baptiste, il y a eu certaines interventions qui se passent au temps machine même, donc là, ça va être des activités beaucoup plus axées sur le son, et je suis totalement libre de proposer... certaines choses qui puissent les aider, éveiller peut-être leur créativité, ce genre de choses. Et voilà, moi je suis là comme tout le monde finalement. et voilà.
Et dans le cadre plus global de ta mission, quel est ton rôle au temps machine ?
Du coup, moi je suis donc du côté de l'action culturelle aussi, je suis complètement Baptiste dans tous les projets qui seront menés ou qui sont déjà menés. J'aide à l'organisation de plein de formes différentes, organisation interne, prendre contact avec des partenaires, des intermédiaires, ou organiser, comme je disais avec l'exemple du CERCIP, des activités, des mini-projets dans le projet, tu vois. Après, je suis totalement libre aussi de proposer moi-même des projets que j'ai envie de mettre en place, proposer des publics que j'ai envie de cibler. Et puis, en fait, je m'intègre petit à petit aux différents projets. Si je peux citer un exemple, il y a un projet exceptionnel cette année qui va être mis en place pendant les vacances de février qui s'appelle le Girl Camp. Et c'est donc une semaine de stage d'initiation à la musique proposée pour les jeunes femmes et minorités de genre. Qui seront une semaine qui est animée du coup avec différentes artistes intervenantes de la scène locale globalement. Et ça, voilà, c'est un projet pareil dans lequel je m'intègre petit à petit. J'ai pu participer aux réunions qui sont faites pour mettre en place tout ça, comme je disais, hein, rencontrer les intervenantes, proposer des idées. Et voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres actions qui sont menées par le temps machine. Ouais.
Et toi, donc, tu as eu une formation en musicologie avant, une licence.
Ouais.
Tu as fait quel CERCIP, justement ?
Moi, j'ai fait... Alors, du coup, en L2, j'étais salariée dans un... J'étais serveuse dans un restaurant. Et du coup, c'est ce travail-là qui m'a permis de valider le CERCIP. Et d'ailleurs, j'ai pris connaissance de cette option-là dans le CERCIP assez tard. Du coup, si je peux partager le tips aux gens, c'est cool. Ouais, non, du coup, moi, il y a un certain nombre d'heures de travail à faire pour valider le CERCIP. Mais du coup, moi, j'ai fait ça pour la L2. Et en L3, j'ai fait une activité sportive. J'ai validé mon CERCIP en boxe française. Voilà, donc pas du tout lié à la culture. Et j'aurais bien aimé faire le CERCIP de paysage sonore, mais j'ai pas pu. Mais
tu veux pas refaire une L3 quelque chose ?
Oh, sans façon, sans façon, ça va aller. Non, non, j'ai validé ma licence. On va s'arrêter là.
Mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est de voir toute la diversité qui est proposée dans le cadre des CERCIP. Ouais,
ouais, ouais. Ouais.
On en sait déjà plus sur l'émission de Mylène et ainsi que l'émission du Temps Machine pour l'organisation de cette soirée le jeudi 5 novembre, décembre de 19 à 23h sous le nom de Happy Music Hour. On va faire une petite nouvelle pause musicale, on écoute Deux Journées de Chill Bump.
Keep them plays up. You hold up, wait up. These legs can't hold this. it. As a kid, all I wanted was my father for Christmas. I've seen loved ones hard, I've been sickness on hospital beds, begging God for forgiveness. Kids get cancer, then advance in the dark. I'm thankful my boy gets depressed at the park. We ain't got the same chance at the start. A friend of mine got a transplant at a heart. I was glad for his kids, he stuck around for a bit. The second transplant, he was less fortunate. Another friend got Lyme disease, he tried to ease the pain with a final leap out the window. It was time to sleep, or the pain it was feeling made his mind get weak, and it's a shame.
Hold up, wait up.
Bro, who am I to judge you?
Time out, straight up.
Cause who knows what I would do?
This journey, too tough.
I ain't never been in your shoes. Life ain't a steady calm cruise. We could drag through hell, but the end we all lose. Shit.
I get flashbacks of my accident on the freeway. I'm praying, I'm panicking. Whole family hanging upside down. Dazzle still strapped in it. The car was totaled when we all crawled out of it unscathed. Some say it's miraculous. My sister had a little scratch on her eyelid. How priceless and fragile this life is. One little mishap and you lie stiff. Most outcomes are more extreme. Back when I was only 15, my cousin was the same age as me. And just like me, he was out doing big kid things with a friend when the car hit his scooter. The big crash threw him back. He passed away from the huge impact. They hit a run, no one paid for this gruesome act. To this day, his grieving mom keeps his teenage room intact.
Heroin, loads of amphetamine, anything to feel less empty within. But why did you OD? Alone with your thoughts and you didn't think of reaching out to somebody. I wasn't around and I'm sorry. So much guilt that I feel, cause I weren't there to help. Too caught up with myself, R.I.P.
Hold up, wait up, these legs can't hold this weight up. Time out, straight up, this back can't.
C'était 10 journées by Chill Bump sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortée. Et je rappelle que Mylène Tulifer, j'ai bien dit, et Baptiste Hamon du Temps Machine sont avec nous. Et donc, une question directement pour toi, Baptiste. Cet objectif de sensibilisation aux outils numériques, notamment via l'Audio Room, est-ce que c'est une réussite après 4 ans
Je pense que...
C'est pas toujours facile de répondre à cette question dans le sens où dire de nous-mêmes si c'est réussi, c'est un petit peu compliqué, un petit peu audacieux et prendre un petit peu le boulard. Mais je dirais quand même que oui, je pense que c'est une réussite. En tout cas, au vu des commentaires que l'on a pu avoir des étudiants et étudiantes des précédentes années, je pense que c'est plutôt une réussite. En tout cas, sur ce projet-là du CERCIP, ça me paraît assez évident, parce que ça fait travailler aussi pas mal d'autres choses, au-delà de la découverte de l'outil Audio Room, de la création sonore, etc. Enfin, sur le côté musical, il y a une vraie partie de médiation, il y a un vrai travail sur l'oralité, sur la présentation, le fait de pouvoir présenter des choses face à un public. Et je pense que dans le cadre d'un cursus scolaire, avoir des formations, si je peux le qualifier comme ça, des espèces de formations qui sont hors des cadres des cours, mais pour travailler sur l'oralité, je pense que ça peut aussi être important et servir pour la suite, que ce soit des études ou pour des entretiens, pour que sais-je. Mais en tout cas, on donne quand même pas mal de conseils au-delà du numérique. On a pas mal de conseils sur le travail de l'oralité, la présence, le regard aux autres, etc. etc. Donc je pense que oui, sur ce projet-là, je pense que c'est une réussite. Et sur le numérique de manière générale, on peut toujours en faire plus. Nous, on se sert beaucoup d'Audio Room sur les tablettes. sur les tablettes numériques. Donc, c'est des tablettes que l'on a et qu'on met à disposition des personnes qui vont travailler sur Audioroom. Donc là, par exemple, pour les étudiants et les étudiantes, on leur a prêté à chacun, chacune, une tablette du temps machine. Donc, on met ça aussi à disposition pour pas que le frein numérique et l'accès au numérique, pour pas que l'accès au numérique soit un frein, en tout cas. Donc, sur des autres projets, je pense que oui, on peut toujours aller plus loin dans la sensibilisation au numérique. Mais en tout cas, pour le moment et via cet outil, je pense qu'on est plutôt pas mal.
Ce CERCIP, il est ouvert à tout le monde, donc initié ou non. Est-ce que dans les faits, il y a des débutants complets qui y prennent part ?
Il y a même une grande majorité.
Ouais. Carrément. Bah pour, si on peut citer des exemples, du coup, moi, il y a deux personnes qui sont de la licence musicologie qui sont dans le CERCIP là, mais ça fait ne serait-ce que 2 personnes sur 6. Donc en fait, les autres sont complètement débutants dans tout ce domaine-là. Quoi.
Et puis d'habitude, sur les années précédentes, on a 12 étudiants et étudiantes. Donc cette année, on en a 6 parce que ça ne concerne plus que les L3 et plus les L2. Le CERCIP, c'est depuis la rentrée là, de septembre. Donc, et sur les 6 années qui viennent de s'écouler, sur lesquelles on a proposé ce CERCIP Musée des Beaux-Arts en Machine Université de Tours, c'est la première fois cette année, me semble-t-il, qu'on a des étudiants et des étudiantes qui sont en musico. Donc d'habitude, on est plutôt... Enfin, il y a un peu de tout, hein, mais on peut être sur de l'anglais, sur de l'informatique, sur de la socio, sur de la psycho. Donc ça mélange aussi les étudiants et les étudiantes entre eux et entre elles, ce qui est aussi intéressant, ce que ça permet aussi de se regrouper, de faire de nouvelles rencontres dans des cursus, ce qu'on ne rencontrerait pas hors le CERCIP. Donc c'est plutôt intéressant. Mais du coup, je pense que 95% des personnes qu'on a en face de nous lors des CERCIP sont... débutants, débutantes ou une petite pratique musicale, mais très amateur et juste certains font de la guitare ou de la batterie ou des claves ou peu importe.
Je voudrais juste revenir, vous disiez il y a quelques minutes que vous avez déjà eu des retours d'étudiants ou des personnes qui ont utilisé l'Audioroom plutôt positifs. Est-ce que vous avez un suivi de ces personnes ou est-ce qu'ils sont devenus des artistes, mais bon, est-ce qu'ils ils utilisent encore l'Audioroom aujourd'hui ou carrément ils sont passés à un niveau supérieur ?
Alors, ils ne peuvent pas utiliser Audioroom aujourd'hui pour la simple et bonne raison que ce n'est pas une application qui est dans le domaine public. C'est-à-dire que nous, Autant Machine, on peut s'en servir. On peut le mettre à disposition des publics avec lesquels on travaille. On a une licence qui nous permet de l'utiliser à peu près à notre convenance. Mais ce n'est pas du domaine public, donc ce n'est pas une application qui est téléchargeable. Donc, il faut nécessairement être en lien avec nous, le Temps Machine, ou avec les créateurs, créatrices, donc qui sont Unendlich Studio, qui sont du côté de Bordeaux. Mais sinon, ils ne peuvent pas continuer de l'utiliser à partir du moment où ils nous ont rendu la tablette. Donc, ils peuvent aller vers d'autres types d'outils, mais en tout cas, pas celui-ci. Et pour le lien avec eux, alors, il y en a certaines qu'on continue de voir assez régulièrement, puisque... Il y en a plusieurs qui sont devenus bénévoles au sein du Temps Machine. Donc, on n'est pas sur de la création. Ils ne sont pas devenus artistes à la suite de ces ateliers-là. Mais en tout cas, il y a un vrai lien qui s'est créé. Puisque donc, comme je le disais, certaines sont devenues bénévoles au Temps Machine. D'autres ont été embauchées par le Musée des Beaux-Arts pour faire de la médiation ou pour faire la surveillance des œuvres, etc. Donc, il y a quand même un lien qui se crée, un lien particulier, je dirais, puisqu'on les a quand même, les étudiants, une fois par semaine pendant tout un semestre. Donc, c'est quand même pas mal. Donc voilà plutôt le lien qu'il y a. On ne cherche pas à en faire des artistes en puissance et des gens qui vont remplir des zéniths et des stades de France, mais plutôt des gens avec qui on va pouvoir travailler sur le territoire, ce qui est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal du tout. On comprend que ce choix via l'Audioroom, il s'est fait aussi par un souci d'accessibilité, parce que tout le monde donc, ne pratique pas d'un instrument, mais est-ce que c'est aussi par volonté de s'aligner avec ce qui se fait dans la musique actuelle, où les instruments laissent de plus en plus la place à des productions numériques ?
Aussi, ça n'a pas forcément été comme ça, parce que comme on le disait tout à l'heure avec Mylène, c'est que ce n'est pas un outil vraiment de composition de musique électronique. On ne va pas aller chercher sur les plates-bandes des guitares-bandes, des Audacity, pour n'en citer que quelques-uns. Nous, c'est vraiment sur une question d'enregistrement de son du quotidien qu'on va venir détourner pour en faire de la matière sonore et pouvoir travailler avec cette matière sonore-là. Donc, non, dans le sens où on ne va pas dans de la création de musique électronique ou de musique assistée par ordinateur, mais oui, dans le sens où on va amener un outil numérique de composition pour créer une matière sonore.
Oui, puis avec des interfaces qui peuvent être relativement familières aux logiciels qui existent, mais qui sont du coup bien plus développés que cette application-là. Quoi.
Ouais.
Avec le système de pistes notamment, enfin voilà.
Là, l'avantage avec cette application-là, c'est que quelqu'un qui ne s'y connaît pas, si on lui laisse l'application pendant 2 heures, au bout de 2 heures, il saura l'utiliser.
Oui.
Je pense que si on fait la même chose avec des applications professionnelles, avant de comprendre comment on peut faire un son de clavier, comment on peut l'enregistrer, le pister, etc., le sampler, patati patata, il faut y passer un peu de temps.
Et du coup, là, on est plus sur du développement de compétences plutôt qu'un engagement citoyen. Est-ce qu'il y avait un consensus au moment de la création de ce CERCIP sur cette direction qui est prise?
Ouais, je pense qu'on était tous à peu près d'accord là-dessus. En tout cas, le projet s'est monté de manière assez fluide entre chacune des parties. Donc, si ça s'est passé comme ça, c'est que je pense que tout le monde était d'accord pour partir dans cette direction.
Merci beaucoup. Il me semble qu'on a fait le tour de ce CERCIP. On remercie Baptiste et Mylène pour cette présentation de création sonore donc, qui rassemble l'Université de Tours, le Temps Machine et le Musée des Beaux-Arts. Donc, la soirée de restitution des créations sonores autour des œuvres a lieu, on le rappelle, le jeudi 5 décembre de 19h à 23h au Musée des Beaux-Arts. L'entrée est gratuite, entre autres, pour les moins de 26 ans, les étudiants en histoire de l'art ou aux Beaux-Arts ou les détenteurs du PCE. Donc, place à la chronique validée d'Estelle pour un point littérature, puisqu'elle a pu rencontrer l'autrice Aurélie Valogne au Salon du Livre, qui s'est tenu le samedi 16 novembre à l'Opéra de Tours.
Aurélie Valogne est une écrivaine connue pour ses romans émouvants et profondément humains qui capturent des moments de vie avec tendresse et humour. Elle est souvent qualifiée de reine du feel-good grâce à sa capacité à peindre des histoires simples et touchantes où chacun peut se reconnaître. Auteure populaire, elle entretient un lien étroit avec son public. En tant qu'invitée d'honneur à l'Opéra lors de la 5e édition du Salon du Livre de Tours, elle se confie sur son attachement à ses lecteurs d'Indre-et-Loire.
Alors, c'est ma première venue dans ce salon. Après, j'ai déjà eu la chance de rencontrer des libraires à Tours et à Chambray et Tours. Donc, je suis déjà venue plusieurs fois et à chaque fois, l'accueil était vraiment mais incroyable. Souvent, j'arrive et je me dis, bon, c'est jeudi, 18h, mais les gens, ils seront pas là. Et en fait, il y a une foule incroyable et des personnes qui sont absolument curieuses, bienveillantes et toujours souriantes. Donc à chaque fois, pour moi, c'est une joie de revenir. Et donc là, c'est sûr que cette invitation, je l'ai acceptée avec honneur.
La carrière littéraire d'Aurélie Valogne est née d'un changement de cap. Elle a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine du marketing dans de grandes entreprises. Mais voilà, à l'âge de 30 ans, elle décide de quitter ce monde pour se consacrer à sa passion de l'écriture. Une démarche audacieuse pour une auteure alors inconnue. Première autopublication en 2014 avec Mémé dans les orties. Ce roman connaît très vite l'engouement du public qui propulse le livre en tête des ventes. Devant ce succès, elle signe avec une maison d'édition, Michel Lafon, qui republie le roman en format papier. Il devient un best-seller et s'écoule à plus d'un million d'exemplaires en France et à l'étranger. Parmi les principales œuvres d'Aurélie Valogne qui ont connu un immense succès, on peut citer En voiture Simone, Au petit bonheur la chance, La cerise sur le gâteau, Né sous une bonne étoile, Le tourbillon de la vie, La ritournelle, L'envol et plus récemment La lignée publiée en 2024. Le récit adopte une forme épistolaire et met en lumière la relation entre deux femmes écrivaines, Madeleine, une autrice accomplie, et Louise, une jeune femme qui rêvait de devenir écrivaine mais qui a choisi d'autres chemins. Leur correspondance, étalée sur plusieurs décennies, aborde des sujets tels que les défis de la création artistique, les tensions entre vie professionnelle et ambition, ainsi que la quête d'authenticité dans un monde de normes sociales et de pression. Je vous propose maintenant d'écouter comment s'organise le métier d'écrivain avec Aurélie.
Alors en fait, déjà je sais que chaque jour j'ai la chance de faire le métier que j'ai choisi, qui est ma passion, et je mesure la liberté que c'est et la chance que j'ai. Donc ça m'oblige à être très rigoureuse, ça m'oblige aussi à ne jamais m'arrêter de travailler. Et donc notamment la lignée. J'ai essayé de montrer ce que c'était pour une femme, notamment, de créer quand elle a un mari et des enfants. J'ai vraiment une routine et des contraintes que je m'impose toute seule, disons. Oui, parce que sinon, en fait, on ne le rend jamais, le roman. On veut toujours le retravailler. Il y a un éditeur qui attend et surtout les lecteurs. Donc voilà, donc non, moi, c'est tous les matins, je me lève avec bonheur et j'attends qu'une chose, c'est d'ouvrir l'ordi et de retrouver mes personnages et de me dire, je vais leur donner des personnages à aimer.
Bien qu'elle ne soit pas souvent primée dans les cercles littéraires classiques, elle a reçu plusieurs récompenses décernées par les lecteurs. Je lui ai posé une question que j'ai nommée la question impertinente. Je vous laisse découvrir sa réponse. Écoutez plutôt.
Dernière petite question, oui. C'est la petite question impertinente. Les critiques littéraires sont parfois très difficiles alors que vous avez beaucoup de lecteurs. Est-ce que ça ne crée pas un syndrome de l'imposteur ou est-ce que finalement...
Je pense que ce n'est pas pour rien que pendant 10 ans, je ne me suis pas sentie très légitime ou très à ma place. J'ai même découvert le syndrome de l'impostrice. C'est vraiment quelque chose que l'on ressent en tant que femme. Et quand le mot écrivaine n'existe pas, c'est pas pour rien qu'on s'autorise pas à écrire. Donc moi aujourd'hui, j'ai vraiment réglé mon compte avec ce sentiment-là. Je me sens à 1000% à ma place et je mérite tout ce qui m'arrive. Voilà, au bout de 10 ans, ça y est, je peux le dire. Mais il a fallu que je passe par l'écriture notamment de la lignée pour mettre tous mes questionnements sur papier et de me dire, c'est bon, maintenant je passe à la suite et le regard des autres, je m'en fiche et je m'en contre-fiche. Je sais pourquoi je fais les choses, je sais pour qui je les fais. C'est pour mes lecteurs et pas pour le milieu. Donc voilà, la question impertinente. Merci à vous.
Et oui, Aurélie, vous avez raison, le mot impostrice reste dans l'ombre au point de souffrir lui aussi du syndrome de l'imposteur. Depuis 2019, les immortels de l'Académie française se sont un peu tardivement penchés sur la féminisation des noms de métiers. Mais la question demeure, impostrice atteindra-t-il un jour l'immortalité ? Qu'à l'instant, il n'a toujours pas trouvé sa place dans la 9e édition du dictionnaire de l'Académie. À travers ses romans pleins de charme et d'humanité, Aurélie Valogne s'impose comme une voix incontournable de la littérature contemporaine française. Elle a su conquérir le cœur de ses lecteurs et pourquoi pas le vôtre.
Voilà pour la chronique des validées d'Estelle, que l'on remercie car c'est toujours un moment agréable et enrichissant. Le podcast de l'émission est à retrouver sur radiocampustour.com. On se laisse sur une petite touche de musique avec Vestal, Dyrène, Dressel et nous vous souhaitons une agréable soirée.